VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 23 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Seludia
et Eric Manilakiza.
Nous commençons par les titres.
La RDC, Médecins sans frontières, appelle l'ONU à faciliter son action en Ituri.
Bangui ouvre une enquête après l'arrestation à l'aéroport de Bangui de 4 militaires de l'armée française, accusés sur les réseaux sociaux de tentative d'assassinat du président centrafricain.
En Guinée, la junte lance une enquête pour récupérer des biens immobiliers de l'État.
Une coalition de partis anti-junte veut former un gouvernement civil pour le Mali.
Au Niger, au moins 18 civils ont été tués dans l'attaque d'un camion près du Mali.
Washington annonce des sanctions qui coupent la Russie des financements occidentaux, alors que le président Joe Biden dénonce le début d'une invasion russe en Ukraine.
N'en manque pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières a appelé hier mardi les Nations Unies à lui permettre de porter assistance aux communautés qui ont besoin de son aide dans les zones de conflit à Ituri, dans le nord-est du pays. Les précisions de John Lyndon.
Une délégation des Nations Unies conduite par le secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivée mardi à Bunia, capitale de l'Ituri. Monsieur Lacroix va rencontrer des personnes affectées par les violences qui secouent cette région, a indiqué la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, qui déploie quelque 12 000 casques bleus dans ce pays. La venue de cette délégation nous donne l'occasion d'interroger l'ONU sur le déploiement de l'assistance face à la crise en Ituri, écrit MSF dans un communiqué. L'assistance humanitaire se doit, dans le respect de ses principes, d'être neutre et impartiale pour atteindre toutes les communautés affectées par ce terrible conflit, note l'ONG. Cette aide neutre et impartiale est actuellement compromise par la violence, mais aussi par le manque de déploiement auprès de toutes les communautés qui en sont victimes, estime Médecins sans frontières, présente en Ituri, province qui a renoué avec les violences depuis fin 2017, après une décennie d'accalmie.
La République centrafricaine a ouvert hier une enquête après l'arrestation la veille à l'aéroport de Bangui de 4 militaires du corps de la Légion étrangère de l'armée française escortant un général de la force de l'ONU. Ils sont accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le président Faustin Archange Touadéra, dont le convoi devait passer au même endroit. Paris et l'ONU ont aussitôt dénoncé ce qu'ils ont qualifié de grossière manipulation.
Et pendant ce temps, aux Nations Unies, la France et les États-Unis ont accusé devant le Conseil de sécurité les mercenaires de la société russe de sécurité privée Wagner d'avoir exécuté et massacré des civils et de mener une campagne systématique de terreur en Centrafrique, où ils combattent les rebelles aux côtés de l'armée régulière. Une diplomate russe à l'ONU a aussitôt rejeté en bloc les affirmations de Paris et Washington.
Au Niger, le gouvernement a annoncé hier qu'au moins 18 civils ont été tués et 8 autres personnes blessées dimanche dans l'ouest du pays lors de l'attaque d'un camion par des djihadistes présumés près du Mali. L'attaque a eu lieu dans la région de Tillaberi, zone dite des trois frontières. Une opération de ratissage a été engagée dans la zone, selon le ministère.
Une coalition de 8 partis maliens opposé à la junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé hier à Abidjan vouloir former un gouvernement civil de transition pour organiser des élections dans un délai de 6 mois. Ils ont retenu le 27 février, date initialement fixée par les militaires pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'a annoncé à la presse Enéa Ibrahim Camara, président de cette coalition du mouvement Faso Dambé MFD, l'honneur de la patrie en Bambara. Il a appelé ce jour-là à des rassemblements dans toutes les grandes villes du pays, car selon lui, La majorité des Maliens n'est pas d'accord avec la junte.
En Guinée, la junte au pouvoir a annoncé hier avoir lancé une enquête pour récupérer des biens immobiliers de l'État présumés volés 5 mois après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé après 10 ans de pouvoir. Le chef de cette junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, mais que la justice serait la boussole du pays. Le point avec Nanit Talani.
Cette enquête vise une quarantaine de personnes pour des faits présumés de stéléonate, le fait de vendre ou hypothéquer un bien dont on sait ne pas être propriétaire, complicité, faux et usage de faux liés à des biens immobiliers bâtis et non bâtis, selon un document du parquet général de la Cour d'appel de Conakry consulté par l'AFP. Parmi les personnes convoquées figurent plusieurs membres du FNDC, principale coalition de mouvements politiques et d'organisations de la société civile en Guinée. On peut citer les anciens premiers ministres Sélou d'Alain Diallo et Sidia Touré, ainsi que l'ancien président de transition Sékouba Konaté. Tous les leaders politiques ont souscrit à l'action de récupération des biens de l'État, mais ont demandé que la justice soit leur boussole. C'est pour éviter que d'honnêtes citoyens ayant acquis des terrains et bâtiments relevant du domaine privé de l'État ne soient injustement et arbitrairement humiliés et spoliés, a déclaré Sélou d'Alain Diallo, porte-parole du FNDC. Parallèlement, cette coalition a exigé mardi une publication de la liste des membres de l'organe dirigeant de la junte, le CNRD. Elle juge cette publication nécessaire par devoir de transparence et de responsabilité dans la conduite de la transition après convocation de plusieurs de ses membres dans le cadre de la campagne de récupération des biens de l'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a annoncé hier une série de sanctions contre la Russie en guise de riposte, qualifiant de début d'invasion l'ordre donné par son homologue Vladimir Poutine de déployer des troupes russes dans 2 zones séparatistes d'Ukraine. Les détails avec Lionel Gahima.
C'est le début d'une invasion et Vladimir Poutine est en train d'élaborer des justifications pour aller beaucoup plus loin, a averti M. Biden. En réponse, les États-Unis vont immédiatement imposer une première tranche des sanctions qui doivent couper la Russie des financements occidentaux et, a dit le président américain, nous mettons en place des vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Le secteur financier est également visé. Des sanctions de blocage total contre les institutions financières VEB, la Banque publique de développement et PSB ont été décrétées. M. Biden a aussi décidé de sanctionner des élites russes et leurs familles. Alexandre Bortnikov, patron du FSB, le renseignement russe et 5 oligarques proches de M. Poutine sont sur la liste. Des mesures supplémentaires sont sur la table en cas d'escalade russe en Ukraine, ont averti les États-Unis.
Le président Biden a par ailleurs autorisé le redéploiement de troupes américaines dans les pays baltes, en Estonie, Lettonie et Lituanie. Il a aussi rencontré ici à Washington le chef de la diplomatie ukrainienne pour lui réaffirmer son soutien. Et son secrétaire d'État, Anthony Blinken, a annoncé qu'il ne rencontrerait pas, comme prévu, son homologue russe Sergei Lavrov après la reconnaissance par Moscou de 2 régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.
Parmi les autres sanctions occidentale a noté la suspension par l'Allemagne du projet de gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à ce pays. L'Union européenne a de son côté approuvé à l'unanimité un paquet de sanctions contre la Russie, celle-ci devant notamment viser les députés russes. Bruxelles a en outre proposé d'interdire aux autorités russes d'accéder aux marchés et services financiers européens.
Le sous-variant B2 d'Omicron, qui se répand rapidement au Danemark notamment, ne provoque pas de forme plus grillère, une responsable de l'OMS, Rosine Munezero.
Nous ne voyons pas de différence en termes de gravité entre BA1 comparé à BA2, donc c'est un niveau de gravité similaire en termes de risque d'hospitalisation, a déclaré Maria Van Kerkhove, qui chapeaute la lutte contre le Covid-19 à l'OMS. Elle rapportait ainsi les conclusions tirées lundi par un comité consultatif d'experts sur l'évolution du virus qui donne le Covid. Des conclusions rassurantes et très attendues après les inquiétudes provoquées par la prépublication d'une étude sur les hamsters qui semblait montrer qu'au contraire, BA4 et RBA2 infligeaient des formes plus graves. Une autre bonne nouvelle, même si la docteure insiste qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, concerne les réinfections. Alors que nous voyons une baisse des cas des infections dans des pays, nous ne constatons pas une reprise avec BA2. Note-t-elle. Van Kerkhove en a profité pour appeler les pays du monde entier à ne pas démanteler leur dispositif de détermination de séquence, parallèlement à la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays.
À présent, la Minute Éco avec Mohamed Oumfa.
La production de ciment au Sénégal s'est élevée à 8,048,200 tonnes au terme de l'année 2021, selon les données établies par les trois cimenteries implantées dans le pays et relayées par Financial Afrique. Il s'agit d'une augmentation de plus d'un million de tonnes par rapport à l'année 2020. L'inflation s'est établie à 4,3% en janvier 2022 au Rwanda, d'après la Banque centrale du Rwanda citée par Financial Afrique. Il s'agit de son plus haut niveau depuis novembre 2020. La Banque centrale explique cette hausse par des pressions inflationnistes de l'alimentation et des boissons non alcoolisées. Le Cameroun a effectué hier, 22 février, un remboursement de dette d'un montant total de 15,3 milliards de francs CFA, selon investir-au-cameroun.com. Ces fonds avaient été mis à la disposition du Trésor public camerounais au terme d'une opération d'émission d'obligations du Trésor assimilable à 3 ans de maturité rémunérée à 3,7% d'intérêt annuel. L'émission avait eu lieu au cours de l'année 2019.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Au Cameroun, l'agent de liaison et coordonnateur adjoint des Lions Indomptables Ferdinand Makuka a déposé une plainte contre la FECAFOOT et son secrétaire général pour avoir été suspendu par le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o. Il lui est reproché de s'être donné à des activités contraires aux bonnes mœurs, ce que Ferdinand Makuka nie. La première comparution en justice devrait avoir lieu le 1er mars au tribunal de première instance de Yaoundé. Les Lions du Sénégal se sont qualifiés hier pour la CAN féminine 2022 en éliminant le Mali lors du dernier tour retour des éliminatoires. Les Sénégalaises se sont imposées devant les Maliennes à l'issue des tirs au but 3-2. C'est leur deuxième participation à la CAN après la première en 2012. Cette CAN sera la première avec 12 participants. Elle se jouera du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Les pays actuellement qualifiés sont le Maroc, le pays hôte, le Sénégal, le Burundi, la Zambie et l'Ouganda qualifiés par forfait suite au forfait du Kenya. Les 7 équipes restantes seront connues mercredi. En lice, le Cameroun, la Tunisie et le Burkina Faso qui ont obtenu de grandes victoires à l'aller, mais aussi la Côte d'Ivoire et l'Algérie qui se battront pour éviter l'échec et une éventuelle non-qualification. L'entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho, a écopé hier de 2 matchs de suspension et 20 000 euros d'amende après son exclusion pour un geste ironique à la fin du match contre les Las Verón 2-2 samedi en championnat. Furieux, le technicien portugais avait invectivé les arbitres et mimé un appel téléphonique, geste énigmatique qui lui a valu un carton rouge de la part du directeur de jeu, Luca Pairetto, à l'entame du temps additionnel. Selon la presse italienne, le Special One jugeait insuffisant le temps additionnel annoncé. Avec son geste et ses paroles, il aurait accusé l'arbitre, dont le frère est un dirigeant de la Juventus Turin et le père avait été impliqué dans le scandale d'arbitrage au Calciopoli en 2006, de vouloir empêcher la Roma de gagner. L'ancien entraîneur de Spurs ne sera donc pas sur le banc romain pour les rencontres face à la Spezia et l'Atalanta. Terminons par l'athlète ougandais Joshua Cheptegei qui lancera sa saison aux 10 km le 6 mars dans le cadre du semi-marathon de Cannes en France. Âgé de 25 ans, le coureur de fond est champion olympique en titre du 5000 mètres, recordman de cette distance avec un chrono de 12 minutes 35 secondes 36 depuis août 2020. Le fondeur ougandais détient également le record du monde du 10 000 mètres avec 26 minutes 11 secondes 00 depuis octobre 2020. Cheptegei détenait pendant un temps le record sur 10 km avec 26 minutes 38 secondes. C'est maintenant la deuxième meilleure performance de l'histoire car depuis 2020, c'est le Kenyan Ronex Kiproto qui détient le record de 10 km avec un chrono de 26 minutes 24 secondes.
vous auriez rectifié de vous-même. Toutes mes excuses à Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le CAD, Centre d'action pour le développement, a dénoncé dans un rapport annuel la dégradation de la situation des droits de l'homme dans le pays. Cette ONG locale a estimé que les autorités ne s'impliquent pas suffisamment pour empêcher certaines violations attribuées à la police. De la capitale congolaise, notre correspondant Arsène Sévrin.
Le rapport du CAD fait état des situations des violations des droits de l'homme de 2021, mais déjà aussi de 2022. L'Organisation des droits de l'homme a mis le doigt sur des bavures régulières de la police dans sa traque contre les jeunes bandits dits « bébés noirs » à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pour Trésor Ndila Kende, directeur exécutif du CAD, les autorités ne feraient pas grand-chose pour arrêter les violations des droits de l'homme par ceux-là même qui devraient les protéger.
C'est l'histoire d'un hiatus. Vous avez une volonté politique qui se caractérise par la ratification des traités, la promulgation des lois, mais contredit par une réalité qui est triste. L'accoutumance à l'horreur, sa montée en puissance et sa banalisation, aujourd'hui, constitue une source d'inquiétude. C'est une réalité triste. Les violations des droits humains sont massives. Et figurez-vous que le Congo est en train d'accumuler des faits constitutifs des crimes contre l'humanité.
Le rapport du CAG n'épingle pas seulement des situations politiques, mais aussi des atteintes aux droits sociaux et économiques des personnes. Monica Ngalola, la responsable du programme assistance aux victimes de cette organisation, parle d'autres catégories des Congolais dont les droits ne sont pas respectés.
Pour qu'on parle du développement, il faut toujours associer les droits de l'homme. Mais nous sommes dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués et ça n'inquiète aucune autorité dans tous les domaines. Vous prenez le plan judiciaire sur le secteur de la justice, la situation de l'environnement. Vous prenez la situation socio-économique. Aucune situation ne s'est améliorée. Donc nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous demandons aux autorités de veiller à la situation des droits humains au Congo.
Assistant à la publication de ce rapport, un militant de la société civile ne manque pas les mots pour décrire la situation.
Dans d'autres pays, les droits à la liberté, les droits à la santé, le droit au logement sont garantis. Pas au Congo. Il y a encore du chemin à faire parce que nous vivons dans la précarité, vraiment dans la précarité.
Dans son rapport, le CAD conclut que la situation des droits de l'homme au Congo se dégrade tous les jours. Trésor Ndila Kende appelle les autorités à s'impliquer davantage pour une nette amélioration.
Ce rapport, pour nous, est une contribution. Ce n'est pas une provocation pour dire à nos autorités « ça ne va pas ». Il faut changer la donne.
Le CAD est une nouvelle organisation locale des droits de l'homme. Récemment, il a été sur tous les fronts, notamment l'affaire du viaduc, où les policiers ont torturé à mort des jeunes présumés bandits. Arsène Sévérin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le nouveau président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré le week-end dernier les patrons de presse et les associations de journalistes afin de leur donner les motivations profonde du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le nouvel homme fort du Burkina a aussi demandé l'accompagnement des médias, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Kader Traoré.
Depuis sa prise de pouvoir en tant que président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba rencontre successivement. Ce week-end, c'était au tour des hommes et femmes des médias.
C'était pour nous expliquer le pourquoi de ce coup d'État.
Denise Koulibaly est membre de la Fédération des associations des communicateurs et journalistes culturels du Burkina Faso.
C'est bien vrai, il nous a été demandé un accompagnement vrai et sincère. Le Faso a bien dit qu'il ne demande pas que les médias fassent les éloges du MPSR, mais que les médias fassent leur travail comme il se doit.
Au-delà des doléances soumises par les patrons de presse, beaucoup sont repartis satisfaits. Mahamadi Tenya, directeur général du quotidien d'État citoyen.
Aujourd'hui, nous sommes rassurés que le chef de l'État nous dise que la liberté de presse est une garantie. Je pense qu'il a rappelé que l'acte fondamental le spécifie dans un article. Il a aussi précisé que nous puissions critiquer ce qui doit l'être, que nous puissions aussi relayer avec toute la pédagogie et le professionnalisme qu'il faut, ce qui doit l'être aussi.
Les médias privés, qui vivent exclusivement de la vente de l'information, sont très rattachés à la disponibilité de cette denrée. Cyriac Paré est le président de l'association des médias en ligne du Burkina.
Vous le savez, on dit que la communication c'est comme la nature, la oreille du vide. Quand on ne dit rien, il y a forcément beaucoup de choses qui ne sont pas à entendre, qui sont dites. Et il y a nécessité pour les professionnels des médias de disposer de l'information qu'il faut pour savoir quoi dire aux citoyens, ne pas être là à broder, à inventer des choses. Et à laisser libre cours aux rumeurs.
C'est visiblement à la satisfaction générale que les échanges ont pris fin, mais les plus avant d'apprécier. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur le 102.4 FM.
Le Parlement européen veut que le prochain sommet Union Europe-Wagner et d'autres entreprises militaires privées en Afrique, il demande un débat approfondi. Pour un commentaire, Eric Manirakidze a joint à Ouagadougou l'activiste Ismaël Allo.
L'intérêt est fondé. Le problème que j'ai avec cela, c'est que, premièrement, pourquoi est-ce que c'est à l'Europe d'énoncer l'agenda de nos rencontres ? Pourquoi c'est à l'Europe de nous dire où nous nous réunissons, quand est-ce que nous nous réunissons et quel est l'agenda, quel est l'ordre du jour. Mais ces questions doivent être posées à nous-mêmes, Africains. Si nous laissons l'Europe être la locomotive et nous les wagons, eh bien, c'est de notre faute. Deuxièmement, oui, il est fondé de discuter de Wagner. Mais pourquoi seulement de Wagner? Pourquoi est-ce que la France, l'Europe et les autres de l'Occident font une fixation sur Wagner et sur la Russie?
Il parle aussi d'autres entreprises militaires privées en Afrique.
Oui, l'Occident utilise des milices privées. Les États-Unis le font, la Belgique l'a fait, la France l'a fait. Qui était Bob Denard et qu'est-ce qu'il a fait? Bob Denard, ce n'était pas il y a deux siècles, il y a un siècle. C'était avant-hier. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Afrique? Dans combien de pays africains? Dans une dizaine de pays africains, sinon plus. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et il avait l'État français derrière lui. Il avait Jacques Foccart derrière. Et la fameuse Légion étrangère, qui est une institution française qui date de 1831, dont la première mission était la conquête, la soi-disant pacification de l'Algérie. Et qui, au départ aussi, n'était pas autorisée à avoir des actions sur le sol français, mais hors de ce qui était encore le royaume. En ce temps, donc, j'entendrai bien des Français s'étrangler de protestation en disant « Attention, la Légion étrangère est une institution de la République. » Oui, c'est une institution de la République. Mais constituée de qui ? Constituée de mercenaires. Et pendant plusieurs décennies, il n'y avait le minimum d'appelés étaient des Français. Les autres étaient des Européens et des gens venus d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, ils sont nombreux, ceux qui viennent d'ailleurs plutôt que de la France. Et ils continuent d'être utilisés. Et ils étaient au Mali en 2013. Est-ce que la France ne s'est pas accommodée de Wagner en Libye et ailleurs? Et pourquoi est-ce que c'est devenu un crime d'avoir Wagner au Mali? Je ne suis pas d'accord que les milices, que des mercenaires soient utilisés partout où que ce soit. Parce qu'on ne peut pas les contrôler. On a vu ce qu'ils ont fait en RDC, ce qu'ils ont fait en Sierra Leone, ce qu'ils ont fait ailleurs. Mais si un État est défaillant et courir à des mercenaires, eh bien, c'est au peuple de ce pays de se rébeller contre la décision de son gouvernement, de ses autorités.
Vous êtes au Burkina européen, continuez de croire fermement que l'implication du groupe Wagner en Afrique de l'Ouest va à l'encontre de l'objectif d'apporter la paix, la sécurité et la stabilité au Burkina Faso et d'assurer la protection de son peuple.
Oui, mais nous n'autorisons pas au Parlement européen et à l'Europe de nous dire ce qui est bon pour nous. Ils n'ont aucun droit, aucune autorité.
L'activiste burkinabé Ismaël Diallo.
C'est pas Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek. Vainqueur de la première édition, 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après matchs, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la voie de l'Amérique, que le meilleur gagne.
Le président sénégalais Macky Sall a procédé à l'inauguration du stade du Sénégal. Il s'agit d'une enceinte sportive ultramoderne réalisée grâce à la coopération avec la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan était d'ailleurs présent à la cérémonie d'inauguration, tout comme les présidents Kagame du Rwanda, Barrow de la Gambie, Mbalo de la Guinée-Bissau et George Weah du Liberia, ancienne vedette internationale du football. Le tout dans une ambiance digne d'une Coupe d'Afrique des Nations, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
Un stade de 50 000 places, une pelouse hybride, un système électrique en solaire de 2 MW, deux terrains annexes, une piste d'athlétisme et un musée du football, le tout pour un budget global de 156 milliards de francs CFA. Pour le président Macky Sall, c'est un investissement vital pour la jeunesse et le sport. Le chef de l'État sénégalais a par ailleurs décidé de donner le nom du stade à son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade.
Les vertus rassembleurs du sport nous rappellent que nous sommes une seule et même nation, unie par sa devise, un peuple, un but, une foi. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade. En hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président de la République du Sénégal.
De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est félicité de voir le Sénégal disposer d'un stade qui répond aux normes de la FIFA et de la CAF, quelques mois après avoir failli délocaliser ses matchs officiels au Maroc pour défaut de stade homologué.
Ça, c'est le football, c'est l'émotion, c'est la passion, c'est le cœur, c'est la vie. Et vous êtes un pays heureux, un pays fier aujourd'hui pour ce que les Lions de la Teranga ont fait. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais pour le monde entier, parce qu'on est là pour inaugurer un véritable bijou.
Le président de la CAF, Patrick Mostepe, a dit toute sa fierté de voir les dirigeants africains investir dans le sport en général et le football en particulier.
Aujourd'hui est un jour historique pour le football sénégalais et africain. Il y a de cela quelques jours, nous étions au Cameroun et c'était un honneur de remettre le trophée au Sénégal. Il faut dire que le football sénégalais nous rend tous fiers. Nous remercions le président Macky Sall pour son soutien au football à travers ce joyau, mais aussi le président de la Fédération sénégalaise de football pour son leadership. C'est aussi l'occasion de remercier les présidents africains présents pour leur soutien dans le développement du football en Afrique.
For development in Africa.
Si tout a paru lisse et bien organisé à l'intérieur du stade, plusieurs spectateurs n'ont pas pu accéder à l'enceinte, ce qui a provoqué de violences échauffourées à l'extérieur. Malgré ces impairs notés à l'extérieur du stade, la fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée avec un concert animé par la star Youssou N'Dour et d'autres artistes sénégalais. Avant cela, les légendes sénégalaises ont fait face aux légendes africaines dans un match qui aura vu Khalilou Fadiga, ancien numéro 10 emblématique de la génération des Lions de 2002, inscrire le premier but dans le tout nouveau stade du Sénégal qui porte désormais le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segoudia et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Lionel Gahima et à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.